Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier le laboratoire Sciences Dessinées pour m'avoir donné l'occasion de revenir à Lyon. Je suis très contente de revoir la ville. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler particulièrement de l'articulation qui existe dans ma thèse. Donc, je suis en deuxième année de thèse à l'Université de Poitiers, entre ville, bande dessinée et littérature. Donc, il ne s'agit évidemment pas de plaquer les analyses qu'on peut trouver dans le domaine des recherches littéraires sur la bande dessinée, mais bien de travailler sur un ensemble, sur un corpus qui est harmonieux, puisque mon corpus de thèse est mixte. Et j'ai choisi plus particulièrement de vous parler des figures de cité double dans Les Villes Invisibles d'Italo Calvino et dans Les Murailles de Samaris et Les Mystères de Paris de Skeleton et Peters, donc, qui est ici présent, ce qui veut dire que je vais pouvoir dire moins de bêtises que prévu. J'en appelle à votre indulgence. Je vais rapidement juste expliquer pourquoi j'ai choisi spécifiquement de travailler sur Calvino et sur Les Villes Invisibles. En fait, quand j'ai commencé ma thèse, tout est parti d'une nouvelle de Borges qui s'appelle Tlön bar Robistertius, qui me trottait dans la tête depuis un moment. Et puis, on m'a offert Les Murailles de Samaris. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des liens assez marqués. Donc, j'ai commencé à explorer tout le corpus des cités obscures. Et peu à peu, j'ai d'abord fait un M2 sur Borges et les cités obscures. Et ensuite, le corpus a un petit peu essaimé en fait, dans la conception de mon projet de thèse vers d'autres intertextes très marqués avec les cités obscures, à savoir notamment Calvino, Jacques Abeille et probablement Milorad Pavitch. Je suppose qu'il fait aussi partie peut-être des références des cités obscures. Voilà, et donc pour ceux qui n'auraient pas lu Les Villes Invisibles de Calvino, je fais un bref petit résumé. Calvino, donc, il occupe une place assez importante dans le très dense réseau intertextuel, pardon, qui sous-tend les cités obscures. Alors, dans Les Villes Invisibles, Marco Polo décrit à Kublai Khan les villes de son empire, mais qui sont toutes imaginées, et imaginées à partir d'un modèle. Je cite donc Marco Polo, enfin, je cite Calvino par la bouche de Marco Polo. Une ville qui n'est faite que d'exceptions, d'impossibilités, de contradictions, d'incongruités, de contresens. Et à cette ville, Marco Polo soustrait des exceptions. Mais, précise-t-il, je ne peux pas pousser mon opération plus loin qu'une certaine limite. J'obtiendrai des villes trop vraisemblables pour être vraies. Avant d'aborder donc le vif du sujet, je voudrais évidemment rappeler la polysémie du terme double, puisque c'est là-dessus que va s'articuler mon propos. D'abord, le double, ça peut être le même qui se multiplie, donc une situation de gémellité. Et ça peut être également l'unique qui se divise ou qui recèle une altérité. On parlera ici de duplicité à propos notamment des murailles de Samaris. Alors la gémellité, évidemment, ça semble une évidence dans les cités obscures, puisque la série, vous le savez, repose sur la coprésence de deux mondes distincts, mais qui sont apparentés par certaines de leurs villes. Je cite brièvement le guide des cités. Pour le reste, les différences sont parfois minimes. Des noms, des édifices et même des quartiers entiers apparaissent des deux côtés de façon presque identique, d'autres fois considérables. Certaines caractéristiques du continent obscur n'ont pas chez nous le moindre équivalent. Souvent, le visiteur aura l'impression qu'une bifurcation s'est opérée à partir de quelques éléments communs. La plupart des cités donc, sont également jumelées avec une version référentielle. Pour n'en citer qu'un exemple, on a la ville de Bruxelles qui est jumelée avec la ville de Bruxelles. Et un autre petit exemple, dans l'Écho des cités, donc l'Écho des cités, c'est un hors-série. Qui prend la forme d'un journal qui serait diffusé dans le continent obscur, on trouve un article sur les habitants de Samarobrive. Et ces habitants, en fait, s'inquiètent d'événements étranges qui agitent les eaux de la Somme, puisque ponctuellement, on voit apparaître un sous-marin qui est escorté par des monstres marins et dirigé par un homme en qui certains reconnaissent le capitaine Nemo et d'autres Jules Verne. Et d'ailleurs, l'article de l'Écho joue un petit peu sur les frontières de la fiction, en s'alarmant de la proposition de renommer Amiens, cette cité du continent obscur, et en disant « Si ce projet devait devenir réalité, c'en serait fini de notre ville. Quelques décennies à peine suffiraient à faire d'elle une pauvre bourgade. » Et donc, chaque cité obscure inspirée d'une ville réelle porte aussi sa jumelle en son sein, en elle-même, dans la forme de ses bâtiments. Par exemple, très rapidement, le palais des Trois Pouvoirs à Bruxelles évoque le palais de justice de Bruxelles. Et donc, la référence à des villes réelles est un substrat qui est toujours visible dans les cités qui revendiquent ces parentés. Ce sont deux espaces fondus en un seul, sans compter qu'en plus, si on en croit le fonctionnement des villes obscures, il doit être possible de trouver dans nos propres villes des traces de leurs équivalents obscurs. Alors cette gémellité, qui est aussi donc un jumelage, en quelque sorte atteste d'une réalité qui n'est pas isolée, puisque chaque ville possédant potentiellement son double, le parcours d'une ville est une invitation en fait au voyage et à la recherche des points de jonction que les auteurs des cités obscures appellent les passages. Donc il y a là, je pense, une célébration, enfin une espèce de célébration de la fiction et qui passe aussi par une apologie non dissimulée du vaisseau, pour reprendre le terme qu'on trouve ici dans L'Enfant penché, du vaisseau de l'imagination et de l'écriture. Simplement, les cités doubles qui nous intéressent aujourd'hui, c'est celles qui subissent un traitement un petit peu moins euphorique, moins serein dans leur rapport à la fiction, puisque le double, c'est aussi une prolifération inquiétante du même et une duplicité, c'est-à-dire le recel sournois d'une facette invisible. Tous les cas que je vais évoquer ne se laissent pas forcément penser à travers la spécularité, mais le miroir, c'est quand même une figure assez essentielle ici pour examiner les cités doubles dans les cités obscures et dans les villes invisibles, et en particulier dans leur dimension dysphorique. Dans la nouvelle de Borges dont je vous parlais tout à l'heure, je vous cite un petit passage. Pour ces gnostiques, l'univers visible était une illusion, ou plus précisément un sophisme. Les miroirs et la parenté sont abominables parce qu'ils le multiplient et le divulguent. Donc, je vais retenir de cette proposition trois facteurs de malaise qui existent dans la spécularité. D'abord, en multipliant le réel ou l'illusion du réel, le miroir produit des doubles qui sont en fait des jumeaux inversés, qui sont à la fois autres et mêmes. Par exemple, ces reflets décalés, donc là je cite encore le guide des cités, les reflets décalés que sont les cités obscures. Le miroir, par ailleurs, est également capable de se réfléchir lui-même, donc il est générateur de mises en abyme qui peuvent être infinies et qui peuvent être aporistiques. Et ça permet d'appréhender notamment les blasons qui émaillent les vies invisibles, ainsi que les variantes de ces villes qui continuent de les hanter. Un autre paradoxe classique du miroir, c'est qu'il s'agit d'une surface plane qui semble habitée parce qu'elle suggère une profondeur. D'où l'obsession de savoir ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. Et on a une réponse possible dans les mystères de Paris avec le miroir sans teint. On va voir qu'un faux miroir est serti dans un décor fastueux pour dissimuler des interstices sombres où en fait a lieu une circulation parallèle. Et enfin, le miroir est aussi un facteur de confusion entre l'objet et son reflet. Donc c'est un instrument de duplicité et c'est aussi un propagateur d'illusions. Alors la spécularité n'intervient pas en tant que telle dans l'architecture trompeuse de Samaris que je vais analyser ensuite, ni d'ailleurs à Morhiane, Morhiane qui est une des villes invisibles avec laquelle je compare Samaris, mais ce sont ce type d'apparence mensongère qui dérobe à chaque fois un revers négatif dans ces deux villes. Donc les miroirs, partons du principe qu'ils sont abominables parce qu'ils multiplient l'être, ou ce qu'on méprend pour l'être, et parce qu'ils déguisent un envers menaçant en étant source d'illusions trompeuses. Donc d'abord, je vais parler des figures de gémellité. C'est évidemment pas issu du corpus que j'étudie là, mais je trouvais que c'était particulièrement approprié. D'abord, je vais évoquer les jumelles célestes qu'on trouve chez Calvino, dans la catégorie les villes et le ciel, puisque les villes invisibles en fait reposent sur une typologie, les villes et le ciel, les villes et la mémoire, les villes et les morts, etc. Et donc dans les villes qui sont rattachées au ciel, soit les concepteurs de ces villes ont cherché à calquer l'agencement urbain sur l'ordre cosmique, soit ces villes se reflètent spontanément dans le ciel. Alors on peut commencer par Thécla, qui est une ville perpétuellement en chantier. Et aux voyageurs qui demandent où est le plan de la ville, où est le projet, eh bien les habitants constructeurs répondent c'est une nuit étoilée. La construction donc se poursuit sans répit, comme le disent les habitants, pour ne pas que commence la destruction. Un autre cas de ville céleste, c'est Perinthie, où les astronomes ont fait bâtir la ville complètement en fonction des étoiles. Perinthie, assurèrent-ils, allait refléter l'harmonie du firmament. La raison naturelle et la grâce des dieux allaient donner leur forme au destin de ses habitants. Simplement, une fois la ville achevée, elle commence à pulluler de monstruosité et les générations d'habitants deviennent progressivement difformes. La séquence se conclut sur cette phrase. Les astronomes de Perinti se trouvent devant un choix difficile. Ou bien admettre que leurs calculs sont faux et que leurs chiffres échouent à décrire le ciel, ou bien révéler que l'ordre divin, c'est précisément celui que reflète la ville des monstres. On trouve donc un autre cas. Il y a bien d'autres villes aussi qui parlent de, enfin, qui sont rattachées au ciel, mais j'ai choisi de m'arrêter sur le cas de Bersabé. À Bersabé se transmet cette croyance qu'il existe, suspendue dans le ciel, une autre Bersabé, où flottent les vertus et les sentiments les plus élevés de la ville, et que si la Bersabé terrestre prend pour modèle la Bersabé céleste, elle ne fera plus qu'une avec elle. Donc, symétriquement, à cette Bersabé céleste, il existerait une autre Bersabé sous terre, qui est, je cite, le réceptacle de tout ce qui leur arrive de méprisable et d'indigne, et en somme, c'est une Bersabé fécale. En réalité, c'est la Bersabée céleste qui reçoit les immondices. Et en fait, elle prospère dans un abandon bienheureux, alors que la Bersabée d'en bas entasse orgueilleusement les vertus. Dans ces trois cas, donc dans les trois cas de ville céleste, le reflet céleste de la ville est déceptif. Il échoue dans son ambition à répéter l'harmonie cosmique, et il ne peut y réussir qu'en la laissant vivre inachevée, comme à Thécla, à l'état d'aspiration. Mais la gémellité ne s'applique pas qu'aux villes, elle se manifeste aussi parmi les habitants. C'est pourquoi je vais parler donc maintenant des villes et des morts, après avoir passé par la gémellité céleste, eh bien on va passer par la gémellité souterraine. C'est une autre catégorie de villes invisibles, donc les villes et les morts, où les morts cohabitent avec les vivants. Je commence par le cas d'Adelma. En arrivant à Adelma, le voyageur reconnaît dans le visage de chaque habitant le visage de personnes qu'il a connues et qui sont mortes. Et à la fin de cet extrait, le voyageur se rend compte qu'en fait, probablement pour chacun des habitants de cette ville, lui-même ressemble à un mort, et que donc il est un mort parmi les morts. À Eusapie, une ville des morts tout entière a été bâtie sous la ville des vivants. Et les morts dans cette ville poursuivent leurs activités de vivants. Et les relations entre les deux villes sont entretenues par des cagoulards. On les appelle les cagoulards, ce sont des sortes de passeurs qui transitent entre les deux villes et qui rapportent des histoires et des nouveautés de la ville des morts. Simplement, à force d'entendre ces histoires et ces nouveautés, les vivants finissent par essayer de copier la ville des morts et on en vient à penser que finalement, c'est peut-être les morts qui ont battu au-dessus d'eux le tapis des vivants. Donc dans tous ces cas de villes où cohabitent les morts et les vivants, les morts sont des doubles dont la présence est là pour rendre incertaine l'existence des vivants. Un dernier cas donc de gémellité, qui est également assez dysphorique, c'est la prolifération des doubles. Dans les villes invisibles, les doubles se multiplient selon différentes modalités. D'abord, certaines villes comprennent des représentations d'elles-mêmes, qui varient parfois légèrement par rapport à l'original. Par exemple, à Fedora, on peut trouver, je cite, un palais de métal avec une boule de verre dans chaque salle. Si l'on regarde dans ces boules, on y voit chaque fois une ville bleue qui est la maquette d'une autre Fedora. Ce sont les formes que la ville aurait pu prendre si, pour une raison ou pour une autre, elle n'était devenue telle qu'aujourd'hui nous la voyons. Et ces doubles qui se trouvent muséifiés en quelque sorte à Fedora, il matérialise des possibles de la ville. Et pour Marco Polo, dans ses discussions avec le Grand Khan, elles méritent autant que la Grande Fédora de figurer sur la carte de l'Empire. Non parce qu'elles sont toutes également réelles, dit-il, mais parce que toutes ne sont que présumées. Et donc, cette multitude de villes imaginables, elle est assez empreinte d'une exaltation, l'exaltation de ce qui reste à créer. Alors que, par contre, quand ce sont les habitants qui prolifèrent et qui se multiplient, eh bien, cette prolifération réduit plutôt le champ du possible. On en a un exemple avec la ville de Procope, où d'année en année, le voyageur constate la multiplication de personnages identiques à la face ronde et qui dévorent littéralement l'espace. Donc, je cite la ville de Procope. Année après année, j'ai vu disparaître le fossé, l'arbre, le buisson, caché par des haies de sourires tranquilles entre les joues rondes mises en mouvement par la mastication des feuilles. Et bientôt, le paysage, donc jusqu'au ciel, qui on s'en souvient était le lieu d'une aspiration à la ville idéale, eh bien le paysage disparaît. Cette année, quand je lève le rideau, la fenêtre n'encadre plus que des faces. D'un angle à l'autre, à tous les niveaux, à toutes les distances, on voit des visages ronds, immobiles, très très plats, Avec un soupçon de sourire et entre, beaucoup de mains qui se tiennent aux épaules de ceux qui sont devant. Même le ciel a disparu, autant que je m'éloigne de la fenêtre. Donc ici, la multiplication des doubles étouffe plutôt la possibilité même des bifurcations qui jusqu'à présent gardaient la trace de ce qui aurait pu être. Dans les cités obscures, il existe une hantise semblable du double mauvais. On est ici dans donc les récits qui suivent la dernière édition, je crois, des Murailles de Samaris, je la vois ici. Donc dans cette édition, il y a plusieurs fragments d'un récit qui apparemment n'a pas été achevé par les auteurs, qui se serait intitulé Les Mystères de Paris, Paris orthographié P-A accent circonflexe, pardon, H-R-Y. Donc ici, c'est un extrait d'un de ces récits. On reviendra dessus un petit peu plus longuement par la suite, mais donc dans Le Fugitif, un personnage qui circule clandestinement dans les murs de certains bâtiments qui appartiennent à un patrimoine bien connu de l'architecture française, eh bien, ce fugitif se rend compte que dans un des lieux du bâtiment un peu reculé, il existe un atelier où on conçoit des doubles, des statues des doubles de miséreux, et notamment lui-même. Et donc il ressent une espèce de malaise à se voir grandeur nature sans avoir besoin d'un miroir. Dans les murailles de Samaris, Franz, donc le personnage qui est venu enquêter sur des disparitions à Samaris, finit par découvrir que les habitants de la ville ne sont que des pantins en deux dimensions, sur un panneau de bois, je ne sais pas si on voit bien ici. On peut d'ailleurs confirmer cette structure de gémellité par des ressemblances qui existent entre certains personnages qu'il a pu connaître et les personnages des pantins qui se trouvent à Samaris, notamment une ressemblance d'une femme qu'il rencontre avec l'une des disparues sur qui il devait enquêter. Et cette ressemblance est accentuée par la proximité des prénoms des deux femmes qui s'appellent Clara et Carla. Et donc, on peut émettre l'hypothèse ici que, comme à Adelma, ces habitants pourraient tout à fait être les disparus d'autres villes qui auraient été absorbés par le labyrinthe de Samaris et dépossédés de leur identité antérieure. Donc, les doubles des citadins, plus encore que ceux des cités, sont abominables, selon le thème borgésien, parce que leur seule présence met en cause l'existence des habitants, parce qu'elle jette le doute sur l'identité du reflet et du reflété. Ce qui nous amène donc au deuxième développement de cette intervention, qui est celui sur les apparences, c'est-à-dire cette idée de duplicité que j'évoquais au début. La plupart des villes donc, ne s'offrent pas comme investies d'un sens limpide, mais au contraire, elles renferment un aspect caché qui est souvent menaçant. Le motif du miroir sans teint, que j'ai trouvé donc, dans les Mystères de Paris, me semble assez opérant pour décrire cette réalité double. Donc, dans les Mystères de Paris, l'espace est dédoublé au sein d'une même ville. Les lieux parisiens, donc avec l'orthographe, je ne sais pas s'il faut prononcer Paris à cause de l'accent circonflexe ou pas, mais les lieux parisiens donc, qui sont mis en scène ne sont pas seulement un reflet décalé, pour reprendre l'expression du guide des cités, de la réalité, mais ils jouent aussi sur l'investissement d'espaces cachés. Par exemple, l'Opéra, le Palais de l'Élysée ou encore le métro, ici à la station Arts et Métiers, qui a été dessinée par François Skuyten. Il s'agit de montrer des décors insolites qui jouxtent des lieux très connus, depuis des points de vue inhabituels. On découvre également le revers d'espaces d'exposition. Et il s'agit en quelque sorte d'un tourisme obscur, au sens des cités obscures. Il s'agit de visiter la face cachée d'une ville dont, on va dire, le tourisme diurne a pu galvauder un petit peu les charmes. Dans un de ces courts récits donc, qui composent les Mystères de Paris, le récit s'appelle Le Grand Secret, deux personnages discutent de l'existence d'une circulation parallèle dans les murs de certains édifices de la ville. On a donc quelques représentations du palais de l'Élysée, ou de son double obscur peut-être, qui tirent parti des images les plus connues du palais présidentiel pour souligner un traitement inhabituel. Donc les vignettes sont généralement travailler dans la profondeur avec un recours systématique à des premiers plans qui contraignent l'angle de vue et qui obstruent en partie le champ de vision. Les points de vue choisis sont faits pour donner l'impression qu'on surprend une conversation, ce qui accrédite évidemment l'hypothèse de l'espionnage qui est mentionnée par un des personnages, et de fait, quelqu'un épie la conversation. Et c'est le clandestin qui circule entre les murs. Et donc on va avoir des traces de plus en plus manifestes de la présence de ce clandestin. D'abord, une ombre qui se dessine contre les motifs d'une colonne en marbre. Bientôt, une main au coin d'une vignette, puis une épaule et une partie du visage. Et enfin, l'homme presque en pied derrière le miroir sans teint. Voilà, donc au fur et à mesure que le témoin se dévoile, vous avez pu voir que le point de vue glisse progressivement à travers le miroir sans teint, de l'intérieur du salon doré, vers le couloir sombre qui se dissimule dans les murs. Ça suppose donc un envers invisible au plus haut lieu du patrimoine architectural. Donc là, voilà, on a l'image assez nette du miroir sans teint depuis le point de vue du clandestin. Dans Passage du Louvre, qui est un autre de ces courts récits, on trouve le même principe de l'observation clandestine. Et de la même manière, il détermine la composition des cases. Vous voyez qu'ici, par contre, la focalisation se trouve d'emblée du point de vue de l'observation clandestine, d'emblée du côté de l'invisible, pardon. On a une démarcation graphique assez nette entre les vues du musée du Louvre et le revers du décor. Au Louvre, vous voyez ici qu'il y a un usage constant de la ligne claire, des traits qui sont d'une épaisseur également constante. Ce qui place en fait sur le, ça a pour effet de placer sur le même plan visuel le premier plan et le fond. Ça donne un aspect lisse qui coïncide assez bien avec les banalités échangées par les visiteurs. De la même manière, les lignes parallèles du parquet ne comportent aucune aspérité, alors que à l'inverse, dans le revers du décor, il y a toute une série de treillis, de quadrillages, mais également un traitement des ombrages en hachures qui entrave un peu plus la lisibilité, qui appelle un déchiffrement plus lent et plus attentif de l'image. On trouve, ah non, pardon, c'est pas là que je voulais aller. On trouve sur l'envers des murs, donc l'envers des murs d'exposition, une sorte de contre-musée avec des cadres vides, peut-être une espèce de compensation par le vide du contenu saturé des salles d'exposition. Par un même effet de miroir inversé, à l'espace d'exposition succède ensuite l'atelier. Et donc, aux œuvres qui sont confortablement installées dans le patrimoine culturel succède la représentation des miséreux du premier venu, d'après ce qu'on peut lire sur l'ensemble de cette planche. Je ne sais pas si j'ai mis là. Bref. Et donc, le personnage du fugitif, il erre en fait dans un espace double, c'est-à-dire qu'il y a tout ce réseau de couloirs sombres dans lequel on comprend peu à peu qu'il est emprisonné. Il y a également l'extérieur, puisque quand il parvient à sortir, il se retrouve sur une série de toits qui sont visiblement pas ceux de notre Paris. Une série de toits impénétrables, et donc c'est assez intéressant puisque on a ici deux composantes d'une structure de réclusion. Normalement, le mécanisme d'incarcération, c'est l'isolement dans un bloc excentré, ou en tout cas dans une structure fermée. Ici, c'est une structure fermée, mais qui se trouve dans une espèce de gaine qui entoure la ville. C'est une condamnation à errer dans les interstices de la ville, dans tout ce qui n'est pas construit par le regard du public. Et donc, en situant l'espace de détention dans cette espèce de doublure qui entoure la cité, ben, les auteurs, je pense, travaillent sur la notion de marginalité, puisque ici, le sens social s'imprime dans la géographie de la ville. Et la marge, finalement, devient surtout l'ensemble des lieux qui ne sont pas investis par le regard des citoyens. J'en viens maintenant à Samaris, donc à la duplicité qui caractérise la ville de Samaris. Alors, je remercie au passage Henri qui a anticipé sur mon intervention. Donc, nous avons les mêmes images. Alors, exactement à l'inverse du fugitif, Franz, le héros des murailles de Samaris, et lui coincé dans l'enceinte de la ville, mais dans sa partie visible. On est dans un décor qui, comme vous le voyez, est très chargé de volutes, de colonnades, de portiques, et une espèce de présence étourdissante de l'art nouveau dans toute la ville, qui incite à une contemplation esthétique. Et cette contemplation, précisément, distrait le visiteur d'une démarche de repérage qui pourrait l'aider à sortir du labyrinthe de Samaris. Mais de toute façon, la démarche de repérage serait vaine puisque le principe de Samaris, c'est qu'elle se reforme à chaque instant en fonction des déplacements de France. Certains éléments architecturaux apparaissent et disparaissent de l'image sans qu'on puisse vraiment déterminer si c'est une illusion ou pas. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de mécanismes graphiques qui permettent de mettre en évidence ce côté labyrinthique. Par exemple, les perspectives sont systématiquement annulées. Elles sont annulées parce qu'elles sont obstruées par la présence des personnages, comme ici, parce que le point de fuite est relégué hors cadre, ou encore à cause de l'incurvation des rues de la ville, qui dévient toutes les lignes de fuite pour dissimuler leurs termes derrière les bâtiments. Par ailleurs, le ciel est quasiment absent, il n'apparaît en général que complètement mangé par la crête des bâtiments. En fait, on ne le voit pas ici, ça ne change rien. Et il y a un autre effet également qui est qu'on voit très rarement les pieds de France, donc il est assez difficile de construire une déambulation sans avoir l'idée qu'il est ancré sur un chemin, qu'il est ancré sur une route. On a aussi un autre élément qui permet de rendre ce côté labyrinthique, qui est la variation très fréquente et très brusque de l'angle de vue. Comme vous pouvez le voir sur cette planche, on passe assez brutalement d'une vue de face à une vue de profil sans qu'il y ait vraiment de justification, donc les mouvements entre guillemets, de caméra sont assez chaotiques. Et tout ça donne une impression de circularité close, qui est renforcée par les motifs spiralés récurrents. Donc vous pouvez voir ici l'ornement de la porte de la chambre, mais également le pourtour de la serrure, le tissu du sac de France, et évidemment la forme du monument qui fait face à l'hôtel. Je ne sais pas si j'en ai... Voilà, sur la diapositive suivante, on le voit, donc sur la planche de droite, la première vignette, ce monument, évidemment, en fait, une espèce de moteur dans la ville. Ici, vous pouvez voir que la circularité est aussi présente dans l'aménagement de l'espace tabulaire, donc de la double planche, puisque vous pouvez voir que l'incurvation des rainures, qui parcourent les rues, donc en bas à droite, répondent complètement à l'escalier en colimaçon qui est en haut et donc construisent un motif de circularité générale dans lequel s'inscrivent tous les petits motifs de circularité et donc donnent vraiment l'impression que France tourne en rond. Et bientôt, le héros, donc Franz, finit par comprendre que la ville n'existe que pour lui, pour qu'il la parcourt et parce qu'il la parcourt, ce qui est matérialisé graphiquement par la lumière. La lumière, d'abord, est une lumière artificielle. Ici, vous voyez les spots en haut, qui n'éclaire que les parties visitées par le personnage. Et c'est donc en traversant le décor que Franz découvre son envers, découvre ses rouages et la supercherie de la ville. Donc je vous parlais tout à l'heure d'un parallèle avec une ville des villes invisibles, Morhiane. Je vous cite un petit extrait du fragment hein, sur Morhiane. L'homme se trouve tout d'un coup devant la ville de Morhiane, avec ses portes d'albâtre transparentes à la lumière du soleil, ses colonnes de corail qui soutiennent des frontons incrustés de serpentines, ses villas toutes de verre. S'il n'en est pas à son premier voyage, l'homme sait déjà que les villes de ce genre ont un envers. La ville semble se constituer d'un côté à l'autre, selon une perspective qui multiplierait son répertoire d'images. En fait, elle n'a pas d'épaisseur. Elle ne consiste en rien d'autre qu'un endroit et un envers, telle une feuille de papier. Donc, par la suite, Franz apprend que la ville de Samaris s'apparente à une plante prédatrice, la Drosera, qui attire ses victimes, qui les emprisonne et qui s'en nourrit. On peut lire vers la fin de la bande dessinée, elle se saisira des images de ceux qu'elle aura capturés et elle en fera ses images. À la fin des murailles de Samaris, comme chez Calvino, on trouve une inversion du paradigme entre réel et irréel qui avait cours initialement. C'est-à-dire que Franz, de retour à Xystos, ne reconnaît plus rien, ne reconnaît plus personne et plus personne ne le reconnaît. Et il finit par se convaincre qu'en fait, sa ville d'origine était un simulacre et que donc il faut qu'il retourne à Samaris, qui est sa vraie ville. Donc l'illusion, l'image, finit par devenir plus authentique et plus consistante que ce qu'il a inspiré. Ce qui m'amène donc à un dernier développement. J'emprunte le titre d'une des séries de Calvino, Les villes et le nom, qu'on pourrait aussi appeler finalement Les villes et l'image. On trouve chez Calvino une rêverie sur les noms de villes, exactement comme chez Proust, où on trouve une dissociation de la ville nommée et de la ville parcourue, jusqu'ici un classique, qui culmine dans la description d'une ville qui s'appelle Agloré. C'est une ville qui est tellement construite à travers le discours que, je cite, la ville telle qu'on en parle possède en abondance ce qu'il faut pour exister, tandis qu'existe beaucoup moins la ville qui existe à sa place. Et pour terminer sur un motif spéculaire, je voudrais parler de la ville de Valdrad dans Les Villes Invisibles, qui est édifiée au bord d'un lac qui la reflète absolument tout entière, y compris l'intérieur des habitations et les activités des citadins. Les habitants de Valdrad savent que tous leurs actes sont à la fois l'acte lui-même et son image spéculaire, laquelle possède la dignité particulière des images. Et interdit à leur conscience de s'abandonner, ne serait-ce qu'un instant, au hasard ou à l'oubli. Même quand les amants aux cornues se tournent et se retournent peau contre peau, cherchant comment se mettre pour prendre l'un de l'autre davantage de plaisir, même quand les assassins plantent leur couteau dans les veines noires du cou, et plus le sang grume le coule, et plus ils enfoncent la lame qui glisse entre les tendons, ce n'est pas tellement leur accouplement ou le meurtre qui importe que l'accouplement ou le meurtre des images limpides et froides dans le miroir. Donc ici, on a une réhabilitation du reflet qui prévaut sur l'objet et du discours qui l'emporte sur les faits. À la défiance du miroir abominable borgésien et de l'illusion trompeuse, succède ici une valorisation de l'image, qu'elle soit verbale ou spéculaire. En fait, les figures de double dans tout ce qu'on a vu dans les villes et parmi aussi ceux qui les habitent, amènent d'abord à mettre en doute l'original d'une manière inquiétante, en menaçant l'affirmation même de son existence, mais on perçoit par endroits les traces d'un discours métafictionnel qui s'empare de ces doubles a priori illégitimes pour les charger d'une certaine foi dans la fiction. On peut discerner chez Calvino une confiance absolue, il adhère de manière inconditionnelle à cette dignité particulière des images, et c'est peut-être plus mitigé dans Les Cités Obscures, puisque le principe même de la série repose sur le goût d'un ailleurs et sur un jeu constant sur les frontières de la fiction, mais l'interrogation, il me semble, n'est jamais tout à fait sereine sur le rapport entre notre monde et le monde obscur. Je voudrais donc terminer par une interrogation qui est formulée dans l'un des intermèdes des villes invisibles, donc ces intermèdes où Marco Polo discute avec Kublai Khan. Kublai dit: Moi non plus, je ne suis pas sûr d'être ici, à me promener parmi les fontaines de porphyre, écoutant l'écho des jets d'eau, plutôt qu'à cheval couvert de sueur et de sang à la tête de mon armée, conquérant les pays que tu devras décrire. Et Marco répond: Peut-être ce jardin n'existe-t-il qu'à l'ombre de nos paupières baissées, et n'avons-nous jamais cessé, toi, de soulever la poussière sur les champs de bataille? Moi, de marchander des sacs de poivre sur des marchés lointains. Mais chaque fois qu'au milieu du vacarme et de la foule, nous fermons à demi les yeux, il nous est donné de nous retirer ici, vêtus de kimonos de soie. Peut-être n'est-il resté du monde qu'un terrain vague, couvert d'immondices, et le jardin suspendu du palais du Grand Khan. Ce sont nos paupières qui les séparent, mais on ne sait lequel est dehors, lequel dedans. Je vous remercie.
Merci à Elsa d'avoir accepté, puisqu'on a été très directif avec elle et on lui a imposé justement cette confrontation littérature-bande dessinée qui n'était pas forcément. Enfin, on l'a imposé clairement. Donc,
c'est mon sujet de thèse quand même, donc ça va.
On a été quand même directif. Peut-être des questions dans la salle?
Ou une réaction de
principal intéressé.
Je peux dire quelques mots pour ouvrir. Avec les précautions épistémologiques qui s'imposent, ce n'est que la vie d'un des auteurs, et certainement pas d'un propriétaire du sens, des références et des associations. Donc il faut bien dire que, même si je peux bénéficier de quelques informations factuelles, par exemple sur ce que nous avons lu ou ce que nous n'avons pas lu, regardé et moins regardé, ça ne dit rien de la pertinence de telle ou telle lecture qui peut être proposée. Donc, j'ai trouvé la lecture très riche. Je suis très sensible au fait que vous soyez attardé sur ce récit beaucoup moins connu qui s'appelle Les Mystères de Paris. Donc, je le prononce avec
vous prononcez.
Un peu plus avancé. Les Mystères de Paris, parce que c'est un récit qui avait pris place dans la suivre de manière ponctuelle et qu'on a retravaillé et intégré un peu comme un double et un miroir des murailles de Saint-Marie dans la récente édition. Donc, ça, c'est agréable de voir un récit un peu moins travaillé, moins lu, moins commenté, même par nous, analysé finement par vous. Et juste un mot sur la question des villes invisibles, qui était un livre que j'avais lu, même bien avant le début des Cités Obscures. J'ai peut-être relu à l'époque des Murailles de Saint-Maurice, je ne sais pas. que je n'ai plus jamais relu depuis, voilà, dont j'ai un souvenir lointain et qui s'inscrit effectivement dans une sorte de bibliothèque intertextuelle où il y a pas mal d'autres choses, Borges, Goethe, Cazares, Kafka, pas mal de gens, Jules Verne, etc. Mais il me semble qu'il y a à côté des villes invisibles Marco Polo lui-même, le récit de voyage de Marco Polo,
le dévisement du monde,
aussi une vraie source qui est une source commune, comme Borges d'ailleurs, une source commune à Calvino et à nous, et dans la démarche romanesque, narrative, ça m'avait beaucoup intéressé parce que évidemment il y a une différence très forte, il y a des similarités très évidentes dès le titre entre villes invisibles, cité obscure, c'est assez net, mais en même temps une différence très forte, c'est que la machine de Calvino, de récit très court, c'est d'abord une machine conceptuelle, c'est une machine combinatoire où au fond il propose un maximum d'idées de villes sans véritablement les concrétiser sous forme narrative. Elles existent d'abord comme des descriptions ou comme des schèmes. Alors que, évidemment, dans les cités obscures, par le fait même que l'image est présente, que la ville se matérialise, elle doit gagner tout de suite en concrétude. Donc elle quitte très vite le concept. Et aussi, parce que le récit est long, évidemment, le concept de la ville est comme miné ou défait ou complexifié par la trame du récit qui oblige évidemment à sortir de l'idée la plus pure. Donc par exemple, Samaris est une ville trompe-l'œil, mais c'est aussi une ville où il doit se passer un certain nombre d'actions qui vont bien au-delà de cette idée de trompe-l'œil, sinon s'épuiserait en quelque part. Donc il faut bien amener d'autres éléments. Et donc là, je crois que le fait d'être chez Calvino dans des textes sans images et des textes brefs, et chez nous d'être dans des récits plutôt longs et visualisés, même à partir des mêmes figures, amène à développer des choses relativement différentes. Voilà. C'est un peu comme dans les fictions de Borges, à part peut-être la bibliothèque de Babel qui a donné lieu à beaucoup d'illustrations, mais sinon on serait bien en peine de les dessiner. Elles existent dans une perfection qui est aussi une perfection d'univers verbaux. Et le dessin risquerait très rapidement de les aplatir. Il fallait donc prendre des chemins un petit peu différents par rapport au médium.
Merci.
Quelqu'un ose la question ?
Si personne n'a de question, moi j'en ai une pour Benoît Peters.